Les podcasts de l'Institut de France.
Chercheurs à l'honneur. Le prix Michel Serres récompense et distingue chaque année des thèses de doctorat croisant une discipline de sciences exactes et une discipline de sciences humaines et sociales. En 2026, 5 thèses ont été sélectionnées, dont la vôtre, Simon Bain. Félicitations.
Je vous remercie.
Vous travaillez donc sur la matière noire et surtout sur le débat qu'elle suscite dans le monde scientifique. Alors, avant de parler du cœur de votre travail, faut que tout le monde comprenne de quoi on parle. La matière noire, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qu'est-ce que c'est ?
C'est la matière invisible de l'univers. Donc c'est ce que les physiciens, astrophysiciens et les cosmologues intègrent dans nos modèles, c'est-à-dire que les galaxies, les amas de galaxies et l'univers entier seraient structuré autour d'une matière invisible qu'on ne connaît pas, la matière noire. Donc ce n'est pas de la matière noire, c'est de la matière invisible.
Parce qu'en français, on dit donc matière noire, mais vous relevez d'ailleurs dans votre thèse que dans d'autres langues, on utilise plutôt les mots sombre, obscur, c'est ça ?
C'est ça, on a du sombre, on a du obscur. Par exemple, en italien, effectivement, c'est obscur. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce terme-là de matière qu'on a traduit aussi de l'anglais dark matter. Matter en anglais a deux significations, la matière, donc la substance en elle-même, mais aussi le problème, l'affaire scientifique. Et il faut aussi le prendre dans ce sens-là, c'est que la matière noire, on ne sait pas encore vraiment si c'est de la matière, en tout cas on n'en a pas les preuves, mais en tout cas il y a quelque chose, une affaire sombre, un problème noir.
Donc, comme vous l'avez dit, la matière noire, c'est quelque chose d'invisible qu'on n'a jamais vu, jamais touché. Comment des scientifiques en sont-ils venus à dire que ça existait ?
Mais c'est la question que j'ai justement voulu me poser, c'est ce qui a motivé mon projet de thèse. L'idée n'est pas récente, hein, on en trouve déjà au XVIIIe siècle où il y a ces premiers concepts de trous noirs, où même Pierre-Simon de Laplace écrivait qu'il est possible que la majorité des corps célestes soient en réalité non lumineux, soient en réalité noirs. Mais petit à petit, dès le début du XXe siècle, on a pu étudier les dynamiques des galaxies, des étoiles dans les galaxies. On a pu déterminer en fait la masse qui structurait ces objets galactiques. Et là, les objets bougeaient beaucoup trop vite pour être seulement accélérés par de la matière lumineuse. Et c'est là qu'on a eu les premiers indices mesurés de matière noire.
Pour se rendre compte de l'ordre de grandeur de cette matière noire, on dit qu'elle représenterait 85% de l'univers total, c'est ça ?
Alors, elle serait en quantité 5 fois supérieure à la matière ordinaire. Quand les cosmologues, eux, font le bilan matière-énergie de l'univers, la matière ordinaire, celle qu'on connaît, composerait seulement à 5% le cosmos. Il y aurait 25% de matière noire, mon objet d'étude, mais il y aurait aussi 70% d'énergie noire. Un autre concept scientifique que je n'ai pas étudié.
Donc là, on va parler d'un physicien suisse qui s'appelle Fritz Zwicky. Et donc, ça serait lui qui aurait découvert, entre guillemets, la matière noire.
Découvert si celle-ci s'avère existante.
Oui.
En tout cas, on lit effectivement que c'est lui qui l'a introduit. Et ce qui est vrai, c'est que c'est lui qui a eu un premier moyen de la mesurer à l'échelle de l'univers, ou du moins aux grandes échelles, à l'échelle d'un amas de galaxies.
Ok, et vous avez dit si elle existe vraiment, parce qu'en fait, il y a débat. Il y a deux camps, on peut dire. Il y a un camp de personnalités scientifiques qui disent que peut-être cette matière noire n'existerait pas. Et ils disent de lui, de ce Fritz Zwicky, qu'il aurait alors le mot est peut-être pas adapté, mais bricoler quoi cette théorie autour de la matière noire.
Le but était de comprendre les motivations de cet astronome suisse, et donc là, il a fallu lire ses articles précédents, ses articles suivants, analyser dans le détail son article, quelles étaient ses motivations, mais aussi tout le contexte de son époque, que disaient les astronomes, que disaient les physiciens, théoriciens, quel était son contexte de connaissance à cette époque-là.
Mmh. Alors là, est-ce que vous pourriez un peu raconter, nous présenter ce débat qui existe entre ces deux camps, je schématise grossièrement, mais est-ce que vous pourriez revenir sur ça?
Une majorité de physiciens pensent qu'il existe cette matière exotique, cette matière noire qu'on ne connaît pas, qui serait composée donc de particules. Sauf qu'après nombreuses années de recherche en laboratoire, personne n'a jamais trouvé, ou du moins convaincu qu'il avait trouvé une particule de matière noire. Mmh. Alors que c'est ce qui est attendu à toutes les échelles. À l'échelle de la galaxie, on voit effectivement qu'il y a ce besoin de 5 fois plus de matière ordinaire. À l'échelle des amas de galaxies, il y a ce besoin de 5 fois plus de matière ordinaire. Mais il y a une petite communauté de physiciens qui, au lieu de voir la présence de cette matière noire à partir de nos savoirs théoriques, ils remettent en cause nos savoirs théoriques eux-mêmes. C'est-à-dire, ils remettent encore en cause la théorie de la gravitation.
Et donc, cette théorie alternative, elle est proposée par donc, cette communauté de scientifiques. C'est ce qu'on appelle la théorie ou le modèle MOND, M-O-N-D.
C'est à travers la théorie de la gravitation que l'on peut observer ces effets d'accélération de la matière noire. Mmh. Mais si on remet en cause la théorie de la gravitation, alors peut-être que cette matière noire n'existe pas. Et ça, c'est ce qui a été fait par un physicien israélien du nom de Mordechai Milgrom dès 1981. En rajoutant un petit facteur correctif, il arrive à expliquer toutes les dynamiques galactiques sans introduire de matière noire. Et donc là est le débat. Est-ce qu'on a besoin d'introduire de la matière noire pour expliquer les observations avec nos théories actuelles, ou est-ce qu'on a besoin de réviser nos théories actuelles pour voir l'univers tel qu'il est, sans matière noire, seulement avec la matière ordinaire connue? Et quand on regarde les études bibliométriques, c'est-à-dire est-ce que la littérature scientifique parle plutôt de matière noire ou plutôt de gravité modifiée, quelles sont les pistes qui sont empruntées? Au début des années 80, la matière noire était ultra dominante, presque à 100%, et petit à petit, on voit dans la littérature apparaître ces pistes de théorie de la gravité modifiée.
Mmh. Et donc, c'est dans ce débat scientifique, avec ces différentes théories, que votre travail intervient. Comment vous vous placez alors dans ce débat? Vous prenez un peu de hauteur?
On prend un peu de hauteur, effectivement. Moi, j'ai plutôt une pratique de philosophie dans la science, c'est-à-dire au cœur du problème scientifique, essayer de dégager des arguments philosophiques qui sont scientifiquement utiles pour éclairer le débat scientifique.
Vous dites que les deux théories ont raison d'une certaine façon ?
Effectivement, je tranche si en disant que chacune a réussi quelque chose, a réussi à saisir quelque chose de la nature. Avec un argument très puissant, celui qui est des observations indépendantes. C'est-à-dire que si plusieurs observations convergent vers la même conclusion, alors il ne serait pas raisonnable de croire que chacune d'elles est mauvaise, et donc on peut croire fermement à cette conclusion. Et puisqu'on observe cette quantité de la matière noire à l'échelle galactique, alors là on a un argument très fort en faveur de la théorie de la matière noire. Et donc il y a aussi ce succès d'observation indépendante du côté de Monde, qui a réussi, elle aussi selon moi, à saisir quelque chose de la nature.
Enfin, ce que vous dites, c'est que le raisonnement de ces deux théories est totalement recevable.
Et en tout cas, il y a un succès qui a été réussi par les deux pistes d'investigation. Selon moi, ce qui est prometteur, c'est de s'appuyer sur ces deux succès et donc privilégier les pistes des recherches avec des théories hybrides, celles qui prennent le succès du paradigme de la matière noire et celles qui prennent le succès ce qui a été trouvé avec le modèle monde.
Qu'est-ce que votre conclusion change concrètement pour les physiciens aujourd'hui ?
Moi, mon but, c'est d'éclairer le débat avec des arguments robustes pour que le scientifique se décide à quelle piste d'investigation il va emprunter. Parce que le choix entre matière noire et chercher cette particule de matière noire ou chercher des modèles cosmologiques avec cette matière noire ou le choix de réviser notre théorie de la gravitation, ça c'est une affaire du scientifique. Et pour l'aider dans ce choix-là, c'est de lui apporter des arguments pour aller piocher le meilleur des deux mondes. Et donc, celui qui empruntera la piste de la matière noire, par exemple, mes arguments lui demanderaient d'inclure le succès de monde et donc d'imaginer en quoi cette constante de la nature qui a été saisie par monde puisse se traduire en tant que propriété de la matière noire, puisque c'est ce qu'il cherche, pour expliquer ces interactions entre la matière ordinaire et la matière noire qui feraient que, effectivement, on observe ce seuil d'accélération saisi par monde.
Vous présentez ni comme philosophe, ni comme physicien, mais comme un entre-deux. C'est vraiment cette double casquette qui vous a permis de poser des questions que l'un ou l'autre, le philosophe, le physicien, n'aurait pas pu poser tout seul, quoi.
Je me rends compte quand je suis dans des écoles doctorales avec des physiciens que je ne suis pas un physicien, et je me rends compte quand je suis avec des écoles doctorales de philosophes que je ne suis pas philosophe.
Ouais.
Et donc, et je me rends compte aussi quand je réponds à des appels à projets qu'un appel à projet purement physique, je n'y correspond mal. Un appel à projet purement philosophie, c'est compliqué aussi. Et donc, c'est aussi un enjeu de ma thèse que je fais en introduction, en conclusion et même dans plusieurs chapitres, de définir quelle est ma pratique.
Vous avez commencé par quoi ? Par des études de philosophie ou
Une licence de physique fondamentale. D'accord. Qui m'a été très utile pour me construire un esprit de modélisation.
Oui, quand même.
Voilà, et après, j'ai enchaîné sur un master d'épistémologie, un doctorat de philosophie.
On arrive à la fin de l'entretien. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter pour conclure ?
Mais je voudrais peut-être revenir à la première question que vous m'avez posée quand vous me demandez ce que c'était que la matière noire. Et j'en reviens à ça, en fait, dans ma conclusion. Qu'est-ce que c'est que la matière noire ? Ce n'est pas un artifice théorique, puisqu'on a vu qu'on avait réussi à saisir des choses de la nature avec ça. Ce n'est pas de la matière, en tout cas, on ne peut pas l'affirmer. C'est, selon moi, un objet scientifique. Qui est entre le terme linguistique matière noire et le véritable objet de la nature qui se cache derrière les phénomènes observés. Et donc c'est un objet scientifique, c'est un concept scientifique utile et qui permet de révéler des choses de nature. La matière ordinaire se comporte comme s'il y avait 5 fois plus de matière noire supplémentaire, et la matière ordinaire se comporte comme si, à partir d'un certain seuil d'accélération, il y avait besoin de matière noire. Voilà ce que signifie matière noire, c'est un objet scientifique avec ces deux éléments robustes-là qui ont été déterminés par les deux communautés de physiciens différentes.
Simon Bain, merci beaucoup pour cette introduction à votre travail. Je n'ai pas prononcé le titre exact de votre thèse, je le dis quand même. Analyse épistémologique du cas de la matière noire sur la place de l'observation scientifique dans l'engagement ontologique. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Les podcasts de l'Institut de France.